Bonjour à tous et bienvenue dans le Forumcast. Nous en sommes à notre cinquième émission, si je ne m'abuse. Je suis l'inénarrable Addy Boy et je suis accompagné de mes deux habituels acolytes, l'inégalable Metal Neo.
Bonjour.
Et l'inarrêtable Travis.
Bonjour.
Alors, au sommaire de cette émission, nos actualités pour quelque chose qui devient désormais habituel. Nous suivrons ensuite avec la série Santa Clarita Diet de Netflix, que l'on a pu voir tous. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on abordera un sujet série à recommander, des séries assez anciennes, enfin, pas forcément très vieilles, mais voilà, qu'on a vu, qu'on a aimé et dont on veut parler.
Une séquence flashback.
Du coup, niveau actu, je vais laisser la parole à Metal Neo.
Comme d'habitude.
Alors, moi j'ai deux actus cette semaine, deux nouveautés. La première étant une dont on a parlé récemment. C'est la sortie de Horizon.
Horizon Zero Dawn.
Qu'on attendait avec impatience tous. Mm-hmm. J'ai enfin pu commencer ce jeu. Je pense ne pas être le seul.
Je suis coupable.
on est deux coupables ici, on n'attend plus que le troisième.
J'ai pas encore de PS4.
Voilà,
ça ne saurait tarder.
Donc Horizon, jeu PS4 optimisé pro, qui sort que sur PS4, donc exclusif à la PS4. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce jeu. J'en suis qu'au début encore, mais j'ai bien joué. Hein. Je dois en être à une bonne dizaine d'heures de jeu, je pense. Un peu plus, peut-être.
Ouais. Déjà, c'est pas mal.
Et c'est un jeu magnifique, vraiment splendide, avec... une histoire bien sympathique pour le moment. C'est ce que j'espérais vraiment le plus dans ce jeu, parce que de ce qu'on en voyait, l'univers avait l'air extrêmement travaillé, extrêmement riche. La seule inconnue, c'était l'histoire. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un bon scénario? Est-ce que ça va être un Far Cry, comme tu en parlais? Moi, je trouve pas. Je retrouve énormément de code et de je retrouve beaucoup de choses de plein d'autres jeux, mais... c'est pas négatif, au contraire, je retrouve tous les bons côtés de plein d'autres jeux. J'y retrouve The Witcher, ce qui devrait te plaire, j'y retrouve du Assassin's Creed, j'y retrouve du Lara Croft, j'y retrouve du... même du Batman parfois.
Enfin, dans les combats
Pas forcément dans les combats, non, plus dans la recherche, l'enquête.
D'accord.
Tout ça,
hein, okay. Ah oui, avec ce système de vision, améliorée.
Donc,
ouais.
En fait, ils ont pioché dans un peu tout ce qu'on aime dans tous les jeux, ils ont fait leur propre jeu et voilà, pour le moment, moi je me régale. Il y a encore plein de choses à découvrir, il a l'air assez immense, donc voilà, moi, bonne surprise et je pense que je vais pas le lâcher.
Très bon jeu, très joli effectivement, superbe, vraiment impressionnant, à la hauteur des attentes, etc. Le scénario est une bonne surprise aussi pour l'instant, moi j'en suis moins loin, mais ouais. Et voilà, j'ai rien à redire sur ce jeu, Léorine est charismatique, les personnages secondaires sont aussi très bien apparemment, pour l'instant. Que des bonnes choses, rien à redire. On est gâté en ce moment entre ça, Zelda pour ceux qui ont la Switch. Là, je suis vraiment partagé entre les deux et c'est deux mondes ouverts incroyables. Voilà, que du bon.
Que du bon.
C'est... un plagiat réussi donc.
Bon, pourquoi un plagiat?
C'est pas faux, c'est vrai.
Ouais,
c'est,
peut-être,
c'est,
allez,
si on
allez,
peut faire un reproche,
allez.
C'est un petit peu le manque d'originalité du gameplay. Voilà, là où je pense que Zelda arrive à se distinguer un peu, c'est le gameplay, c'est tout ce qu'il y a derrière, toutes les possibilités, alors qu'évidemment Zelda n'a pas la même qualité graphique, ça c'est sûr.
Ouais, après bon, je pense qu'on peut pas les juger.
C'est
là
deux jeux très différents,
mais
qui ont beaucoup enfin qui sortent en même temps, qui ont des mondes ouverts extrêmement grands,
riches.
Voilà, riches aussi, voilà, super. Enfin, c'est bien d'avoir ces deux jeux là. J'espère qu'on aura tant de jeux par la suite avec ces univers. Incroyable.
Ouais.
Ah, cool.
Ouais, notamment là par exemple, il y a un jeu dont ça s'inspire aussi un petit peu, plutôt du point de vue narration, c'est un peu le côté Mass Effect. C'est vrai que la façon dont les personnages vont discuter entre eux, ça ressemble vachement à du Mass Effect
avec les choix
et puis ce close-up sur
les visages.
Donc j'aime bien, ça marche bien aussi, ça rend les dialogues assez intéressants, les personnages aussi, il y a souvent on voit bien leur visage, on voit bien les expressions.
Par contre, moi j'ai un gros problème. C'est les mouvements des personnages quand ils parlent.
Les mouvements
d'épaule, de tête qui correspondent pendant un moment, puis après ils correspondent
plus du tout.
Il y a
des fois, il y a des lags. Moi, c'est des fois sur les synchronisations labiales aussi, sur les discussions.
Oui, oui.
Il y a quelquefois un léger lag. Alors, je ne pense pas que ce soit la puissance de la console ou que ce soit un lag technique. Je pense plus que c'est vraiment un lag d'enregistrement ou de synchronisation de leur côté.
Pour moi, ouais,
Voilà. Donc, bon, ça vient de temps en temps légèrement ternir la scène. Ouais. Mais par contre, après, les visuels, les close-up vraiment sur les visages, on voit vraiment les aspérités de la peau, les implantations de cheveux, tout ça, c'est... C'est joli, c'est vraiment des jolis personnages, surtout ceux qui sont travaillés pour être dans ces scènes-là de discussion. Les personnages NPC un peu moins importants qui ne vont pas parler, eux, sont pas... Mais voilà, dans sa globalité, il est vraiment très beau.
Très beau, c'est indéniable.
J'ai hâte de poursuivre plus le scénario. Ouais.
Tu avais une deuxième actualité.
Oui, cette fois, la deuxième actu, elle est plus orientée série. Hein, je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. J'ai eu l'occasion de voir Time After Time. Qui est sorti hier ou avant-hier, dimanche.
Avant-hier.
Donc, comme l'indique le titre, c'est une série sur la chanson de Cyndi Lauper. non, je déconne.
Pas mal celle-là, je m'y attendais pas du tout.
Je déconne. Non, c'est une série basée sur l'univers de H.G. Wells et sur la machine à voyager dans le temps. Donc, le pitch de départ, c'est H.G. Wells qui a réussi à fabriquer sa machine, qui la montre à ses amis. Et ça, pareil, hein, c'est un mini spoiler, mais c'est vraiment les premières minutes du
premier épisode.
Du premier épisode, donc je vous spoil pas grand chose, mais l'un de ses amis est Jack l'Éventreur.
Ah,
mais bon, personne le sait, évidemment. Donc va s'en suivre une histoire entre ces deux personnages qui vont. Utiliser la machine à voyager dans le temps, qui vont se trouver dans une autre ère que la leur. D'accord. Et donc une intrigue à ce niveau-là. J'étais perplexe sur le départ, et puis au fur et à mesure du visionnage des deux épisodes, parce que c'est un double épisode, le premier épisode est assez long, je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a des défauts, il y a des problèmes, hein. c'est pas parfait, il y a des moments où on se dit bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ou comment ça se fait que si, ça, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai bien aimé, franchement, ça marche bien, les personnages sont plutôt pas mauvais, de retrouver ces personnages qui sont censés être d'une certaine ère londonienne et dans un tout autre registre, ça marche pas mal. Et puis il y a une intrigue assez intéressante entre les deux qui essayent de se retrouver l'un l'autre parce que l'un est un tueur et l'autre se sent responsable. Bon, voilà, moi franchement, pour le moment, les deux premiers épisodes, j'ai bien aimé. Travis, je sais pas si tu as eu l'occasion de
le
regarder.
Non, j'ai pas eu l'occasion de le regarder.
Est-ce que je t'ai donné envie de regarder ?
Tu m'as donné envie de le regarder, mais je ne regarderai pas. J'ai malheureusement vu les audiences qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous.
C'est vrai. Donc toi, tu bases tout sur les audiences, en fait.
Non, mais disons que ça ne m'intéressait pas excessivement à la base. Ouais, même si j'aime beaucoup les pilotes, mais là, je suis passé à côté. C'est mal parti, on ne va pas se mentir, c'est quand même mal parti. Je vais attendre un petit peu de voir quand même si ça remonte. Et si tu continues de suivre,
moi je vais continuer. Maintenant que j'ai démarré, moi c'est comme ça que je fonctionne en plus. En général, j'aime pas regarder un pilote pour regarder un pilote. Quand je démarre un truc, c'est parce que le concept de base m'a plu et j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc pour me faire une idée finale. Et après, au bout d'une saison, là tu te dis j'arrête, je continue.
C'est bon,
Donc bon, j'ai démarré celle-là, ça m'a plu. C'est un bien grand mot, c'est pas.
Ça a l'air. C'est du Kevin Williamson qui a fait. Qui est à l'origine de Dawson, de Vampire Diaries, etc.
D'accord.
Il a fait plein de choses, il a fait aussi des séries un peu plus policières.
Parce que là, les deux que t'as sur la cité, quand même, ça
m'a donné,
pas
ça donné
trop,
moyennement.
Dawson, c'est un classique quand même. Après,
c'est un classique pour les misinettes. Hein.
Non, c'est un classique pour.
Pour faire des mèmes, internet.
Ouais,
quand
c'est
tu pleures,
je déconne. Moi, c'est vrai, c'était pas trop mal.
Non, c'était une série qui a, je pense. Peut-être vous aussi, mais un peu marqué l'adolescence des gens de notre âge, on va dire.
Oui.
Donc,
si tant est que les gens savent quel âge on a.
De un, j'ai pas votre âge.
Qu'est-ce que tu insinues
Voilà. Donc, Kevin Williamson, il a fait pas mal de choses et il a souvent des séries, c'est pas des dramas assez profonds, je dis pas ça méchamment, mais c'est des dramas un peu légers, des bons divertissements.
C'est clairement ça.
Des pop-corn.
C'est clairement ça. C'est un drama. C'est très léger, je veux dire, ça rentre pas dans le dramatisme profond ou dans des visuels sombres ou quoi que ce soit.
D'accord.
C'est extrêmement léger, ça se consomme quoi. Hein. Donc voilà, pour le moment, j'ai passé un bon moment.
C'est l'année des séries avec Voyage dans le Temps, parce qu'il y a Timeless.
Timeless aussi, ouais. Ça, j'ai pas regardé, ça.
Qui est pas trop mal, j'ai vu que le pilote, parce que j'ai pas hyper accroché non plus. Mm-hmm. Mais il y avait un bon casting et du potentiel. Donc je pense que quitte à me lancer dans une série de ce genre, je resterai peut-être plus sur Timeless, mais je vais attendre les échos de...
Ouais, peut-être.
Et pardon ?
Elle a de meilleures audiences.
Elle a un petit peu de meilleures audiences, mais c'est pas vraiment ça non plus. Les networks ont vraiment du mal, à part les séries policières et les comédies, on va dire, certaines comédies comme Big Bang, etc. Je trouve que les audiences des networks sont un peu inquiétantes, et c'est un petit peu normal vu ce que proposent les chaînes du câble. Et,
d'ailleurs,
et
c'est,
Netflix,
diffusé,
hein.
C'est diffusé sur quel...
C'est sur ABC.
ABC.
Ah, c'est ABC quand même. Ah oui. Ouais.
Donc voilà, gros network, mais ça passe après Once Upon a Time, et ça fait moins bien que Once Upon a Time, qui a déjà, qui
ça
a déjà fait...
Ou sixième saison, hein, en plus.
Où,
ouais, mais il y a Robert Carlyle.
Oui, mais bon, c'est souvent sujet à moquerie, Once Upon
oui,
a Time.
Oui, bien sûr.
C'est, ouais. Moi, j'aimais bien, c'était un bon divertissement.
Moi aussi, j'ai regardé les deux premières saisons, mais j'ai commencé un petit peu à me lasser au bout d'un moment.
Oui, pareil.
Moi, un beau jour, j'étais tombé dessus, et je me suis dit, ah, mais je savais pas qu'ils avaient fait une adaptation en série télévisée de Fable.
Ah ouais.
De Bill Williams.
Mais c'est ça, c'est presque, c'est même.
Et en fait, non, pas du tout, mais.
Non, c'est un genre très différent. Enfin, une ambiance différente, mais c'est le même principe de base, et c'était clairement
des
avoué.
Personnages de fable qui vivent.
En fait, ça marchait du moment où la première saison marchait, quoi, parce que c'était le concept qui était intéressant de se dire, c'est des personnages qui sont issus des contes de fées.
Des contes de fées, ouais.
Qui ne savent pas qu'ils sont issus d'un conte de fées, qui vivent des vies normales. Maintenant, après qu'ils sont rentrés dans leur histoire un peu... Enfin, dès qu'ils ont terminé un peu ça dans la saison 1, les saisons suivantes étaient difficiles à remplir parce qu'il fallait de plus en plus aller vers le côté conte de fées pour justifier une histoire.
Ramener des personnages.
Donc là, ça devenait compliqué. Mais il faudrait peut-être un jour que je m'y réintéresse, voir ce que c'est devenu, mais c'est dommage.
Moi, je pense que c'est pas forcément à mettre dans les priorités.
Pour
ceux qui aiment et qui suivent les personnages, ça doit être intéressant, mais bon, voilà.
Pour le reste. Voilà. Ouais, on a bien digressé là quand même. Du coup, si on passait à tes actus, Travis.
Alors mon actu, c'est Big Little Lies.
Big Little Lies.
Voilà, une mini-série HBO avec Nicole Kidman. Ah. Ça commence bien. Reese Witherspoon. Ouais. Si tu commences à dire du mal de Nicole Kidman, ce podcast
mal,
va être très vite terminé.
C'est un peu tiré quand même. Hein.
On reparlera de Kidman un peu après. Elle a des scènes assez explicites où elle a...
Ah, j'ai cru elle a des seins assez...
Ouais. Il y a plein de... Il y a... S'il suffit elle, ça elle, pour que ça te plaise.
Non, mais toi, tu parles de son physique, donc je reste sur le sujet, tant qu'à faire. Et pour le coup, elle est très bien...
Big Little Lies.
Alors, le pitch, c'est quoi? C'est une... Ça se passe dans un quartier, on va dire, très résidentiel, un petit peu à la Desperate Housewife, avec des mères au foyer ou des familles en général qui emmènent leurs enfants à une école. Sauf qu'on a un flash forward, plus ou moins, qui revient régulièrement avec un meurtre qui se passe lors d'une soirée. Tout le monde était réuni.
Ouais.
On ne sait pas qui est mort, on ne sait pas qui a tué. Clairement, pour moi, ce n'est pas l'intérêt principal de la série, ce mystère-là.
Mm-hmm.
C'est censé un petit peu l'être. C'est adapté d'un livre, d'un best-seller. Mais il y a vraiment une bonne ambiance et des bons dialogues et des bons personnages. Le personnage de Reese Witherspoon, pardon, est vraiment génial. Elle est un peu détestable, mais hyper attachante.
C'est un peu ce qu'elle doit être dans la vraie vie, je pense.
Je ne la connais pas personnellement, je ne sais pas.
Les galilles blondes.
Oui, c'est un petit peu ça. Sauf que là, vraiment, son personnage, elle a vraiment un charisme assez impressionnant. Il y a aussi Shailene Woodley.
Fadas Woodley, oui, absolument.
Ok.
La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, ah là là, mais alors gros cul cette actrice quand même. Mais bon, oui.
Ok. Bon,
la meuf de Divergente.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça. Enfin,
pour le coup,
j'étais surpris. Nous avons cassé Travis.
Ouais, franchement, elle est plutôt mignonne.
Oui.
J'étais pas franchement convaincu par son talent d'actrice, je ne l'ai jamais vu, hein, donc c'était a priori un peu bête. Mais là, je la trouve très convaincante. Elle a un rôle un peu particulier, un peu spécial, que je ne dévoilerai pas. Elle a un enfant, elle aussi, c'est une mère célibataire. Elle a un passé derrière, etc. Et le trio d'actrices est vraiment génial. Bon, après, c'est une série, c'est pas un drama, faut pas s'attendre à quelque chose d'haletant ou quoi que ce soit, mais il y a des très bonnes scènes de drama familial, voire un peu plus, ou drama tout court, qui sont vraiment très réussies. Et Kidman, ben, moi je suis un grand fan de Kidman, et je trouve qu'elle apporte toujours quelque chose à chaque scène, même quand elle dit rien. Donc voilà, une série intéressante qui dure avec un nombre limité d'épisodes sur lequel je m'aventurerai pas. Parce que je ne l'ai pas en tête, mais qui peut valoir le détour pour ceux qui aiment ce genre de drama-là. Et rien que par le casting aussi, Adam Scott,
oui.
Parks and Recreation notamment,
ouais, c'est ça.
Qui est un excellent acteur qu'on voit un peu partout en ce moment, mais qui est vraiment très bon, et là qui a un rôle plus dramatique, mais sans être vraiment dans du lourd, etc., et qui le vend très très bien, et ça passe super bien. Donc voilà, une série potentiellement à découvrir, et qui moi m'intéresse et m'interpelle.
Ok. Je vais juste chercher à me rattraper vis-à-vis de Shailene Woodley, qui est une actrice que j'aime beaucoup, en fait. Et du coup, je vais vous conseiller...
Tu sais qu'elle nous écoute, là.
Oui, voilà, on justement, mal, vu hein, qu'elle nous écoute. En fait, je vais vous conseiller un film avec elle qui est vraiment pas mal, qui s'appelle The Spectacular Now, qui est sorti en 2013, dans lequel elle partage l'affiche avec Miles Teller, que l'on a déjà vu dans Whiplash, dans l'excellent Whiplash et dans le plus
moins
que médiocre
4
Fantastiques. Voilà, donc c'est un film, un film sur une relation amoureuse entre deux étudiants, quoi. Mais c'est très bien filmé, c'est très sympathique et voilà, et elle est bien dedans. Donc voilà, c'est une bonne actrice, je tenais à le dire. C'est juste que j'ai un petit délire avec ce petit surnom, Phallas Woodley. Voilà.
Ok.
Voilà, ma justification. En ce qui concerne mon actualité, je vais vous parler non pas d'une série, mais d'un comics qui s'appelle Lock and Key, qui est donc scénarisé par Joe Hill, le fils de Stephen King et ouais, dessiné par Gabriel Rodriguez. Lock and Key, ça raconte l'histoire de la famille Locke, dont le père a été assassiné par un... Il était professeur des écoles, enfin professeur dans un lycée, et il y a un élève déséquilibré qui un beau jour se ramène dans la maison de la famille Locke et assassine le père, tente d'assassiner la femme et les enfants, mais n'y arrive pas. Et donc suite à cet incident tragique, le reste de la famille, donc la mère survivante et les trois enfants, décide de déménager dans une vieille maison qui appartient à la famille et qui s'appelle Lovecraft. L'île sur laquelle se trouve cette maison s'appelle Lovecraft. Et en fait, cette maison est assez étrange puisqu'elle recèle...
Il y a un mystère autour de la maison.
Un mystère autour de la maison et surtout des clés qu'elle renferme. Ouais. Des clés qui ont des pouvoirs très particuliers qui permettent par exemple de quitter son corps et de se transformer en esprit. Enfin, on retrouve vraiment le côté Stephen King dedans. C'est l'incursion du fantastique et du paranormal dans un univers qui est... très, très quotidien, très banal en fait. Et voilà, et en fait on a une espèce d'intrigue principale qui implique donc toutes ces fameuses clés un peu magiques et un personnage mystérieux et démoniaque qui semble lié à l'histoire de la maison, on va pas en dire plus. Mais voilà, donc on est partagé entre la vie de chacun des personnages qui est là une fois encore très Stephen King, c'est-à-dire que suite à la catastrophe, la mère est dans un état pas possible, elle devient alcoolique, enfin, des fois elle abandonne ses enfants. Le fils aîné ressent de la culpabilité de ne pas avoir pu aider son père. La fille rentre en conflit avec le reste de la famille, elle se teint les cheveux, elle devient punk, enfin, elle a du mal à s'intégrer dans son nouveau lycée. Enfin bref, il y a vraiment tout ce côté très, très humain des personnages qui est très bien mis en avant par le scénariste. Et les dessins de Gabriel Rodriguez sont assez particuliers, c'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre très souvent dans les comics.
Ils sont particuliers, mais très cohérents.
Oui.
Il y a quand même quelque chose... En fait, ça va être une direction artistique un peu particulière, avec des formes de visage de personnages un peu atypiques,
voilà,
dans l'univers des comics, du moins. Mais des mises en scène dans chaque bulle, des plans, vraiment... C'est super bien fait. C'est un comic sur lequel je suis instantanément tombé amoureux, quoi. J'ai beaucoup apprécié aussi bien l'édition, parce que c'est une superbe édition qui est ressortie.
Tout à fait.
Ils ont sorti ça sur des gros tomes, ils ont recueilli plusieurs bouquins en tomes. Et voilà, superbe édition, une très bonne histoire. J'en suis pas aussi loin que toi. Moi, j'ai à peine démarré. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai pu en lire pour le moment et j'ai hâte de pouvoir continuer. Rien que tout ce qu'on lit, tout ce qui se passe dans cette histoire nous donne envie d'en savoir plus. C'est haletant. C'est un bon thriller, mais en mélangeant du paranormal à la façon d'un Stephen King, mais plus au goût du jour, quoi. Je pense que ça a un côté, ça sent le neuf grâce à son fils.
Grâce à la patte de son fils. Ouais.
Voilà, moi j'ai beaucoup aimé.
Donc voilà.
Ouais. Pour l'anecdote, c'est un projet un petit peu maudit chez les
niveau série télé.
Ça a eu plein de tentatives d'adaptation. Ouais. Il y a même eu un pilote qui a été tourné avec Miranda Otto, Marc Pellegrino, Miranda Otto qui jouait la mère, Marc Pellegrino et Nick Stahl. Donc il y avait du beau monde. J'ai eu la chance de voir le pilote. Et bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était plutôt sympa.
Oui, parce qu'il faut dire que c'est un bouquin qui est ressorti là en réédition, mais qui est sorti déjà il y a un petit moment. Et donc le pilote, ou du moins les tentatives de série de cette adaptation
date de
2009-2010 peut-être, du moins c'est assez vieux quoi.
C'est assez vieux, ça doit dater de moins de 2010 effectivement, je vais regarder. 2011.
C'est pas forcément une nouveauté, mais du moins cette nouvelle édition, si ça vous intéresse, est assez récente, il me semble.
Oui, ça c'est assez récent.
C'est des comics cultes déjà.
Ouais, nous on était complètement passé à côté, mais c'est vrai que là récemment on est tombé là-dessus.
En même temps, quand on voit les bouquins, on se dit waouh, c'est de la belle ouvrage quoi. Ouais. C'est vraiment...
Ça a gagné des Eisner Awards.
En plus, ça a gagné au moins deux Eisner Awards.
Reconnu
si
parmi les critiques quoi. Donc pour ceux que ça intéresse, une belle découverte.
Qui peut difficilement décevoir. Eh bien, on a fini avec nos actualités. On va pouvoir passer au plat de résistance, si j'ai envie de dire.
C'est bien trouvé.
C'est très bien trouvé.
Oui, c'est vrai.
Donc, au sujet du jour, si vous avez un petit creux, on va vous parler de Santa Clarita Diet, donc série Netflix, avec dans les rôles principaux Drew Barrymore et Timothy Olyphant.
Tout à fait.
Donc je vais laisser mes camarades en parler puisqu'ils ont vu l'intégralité de la série. Moi je me suis contenté du premier épisode, mais je peux quand même déjà dire pas mal de choses pour les accompagner.
Metal Neo.
Oh, je fais que parler.
Oui, mais tu le fais si bien.
Oh, merci. Santa Clarita, que dire? Moi j'ai bien aimé. J'ai regardé tout ça d'une traite.
Oui.
J'ai dû regarder
format 30 minutes. Hein, donc,
oui, voilà, c'est un format
comédie.
30 minutes.
D'ailleurs, c'est une comédie, on peut le dire.
Oui, c'est totalement une comédie. Hein. Totalement une comédie un peu satirique et qui prend.
On peut.
Et de quoi ça parle?
Voilà, exactement.
Oui,
voilà.
Si on refaisait le pitch.
Allez, un petit pitch, c'est vrai. En gros, pour faire le pitch, une famille, on va dire, modèle, vivant dans un quartier à la Desperate Housewives, encore une fois. Les maisons qui se côtoient, les voisins. Je ne vais pas dire parfait, mais voilà, tout le monde a une jolie voiture, tout le monde a une jolie maison et un joli jardin. Donc une famille, un couple avec une enfant, mari et femme qui sont donc...
Agent immobilier,
exactement. Mmh. Et une fille qui est au lycée, il me semble. Voilà. L'histoire tourne principalement autour donc, du couple qui va vivre une certaine tragédie. Dont l'un des membres, en l'occurrence Drew Barrymore, va tomber très malade.
Ah oui.
Très malade, jusqu'à même en mourir.
Jusqu'à en mourir, mais continuer à vivre.
Mais seulement quelques secondes. Hein.
Ouais, voilà.
Parce que quelques secondes après, elle se réveille, tout à fait normale, comme elle était avant, sauf que maintenant, elle a faim de viande.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
De viande fraîche.
Alors, pas forcément au départ, hein, mais on va dire que voilà, maintenant, elle a une insatiable envie de viande et elle a faim. Et apparemment, elle est morte. Donc voilà,
son cœur ne bat plus.
S'ensuit ensuite une succession de scènes liées à ce nouveau mode de vie de cette famille. Voilà. Comment vivre avec cette affliction.
Ils apprennent à conjuguer leur vie normale et leur vie de zombie.
Parce que le mari et la fille sont au courant de l'état de la mère.
Ils le vivent vraiment en tant que famille.
Et ils font tout pour rester ensemble.
Comment on va faire c'est pas genre... tu peux plus être à là, tu vas être dangereux, c'est comment on va te nourrir, quoi.
Voilà, à part cette faim et quelques capacités...
Elle est même un peu changée,
ouais, elle est un petit peu changée, on va pas le dire comment.
Non, on va pas dire comment, mais...
gros spoiler, mais à part ça, c'est la même, elle a les mêmes souvenirs, elle se comporte normalement, etc. Enfin, le reste du temps, on va dire. Il y a peu de changements, donc c'est pour ça que l'amour qu'il y a entre le mari
et toujours
et la
le
femme,
même,
c'est ça, ouais.
Elle a toujours son enfant.
Voilà, c'est sa priorité, c'est toujours sa famille. Donc c'est vraiment une histoire familiale, comique, mais basée dans un univers où existent les zombies. Quoi,
où il y a des zombies.
Voilà. Et c'est parfois très drôle, parfois avec des scènes très cocasses. C'est.
Ouais. C'est voilà, plutôt drôle, le pilote, c'est pas forcément le plus drôle, j'ai trouvé.
Ouais,
mais après, il y a des situations bien marrantes.
Ouais.
Et c'est vraiment, c'est pas une de ces comédies où on sourit juste. C'est
non,
une comédie où on va rire
bien,
tout ouais. haut par moment.
Il y a des très bons guests aussi, hein, assez régulièrement.
Dès le premier épisode.
Dès le premier épisode, Nathan Fillion.
Dès le premier épisode, Fillion, quand on voit Nathan Fillion.
Moi déjà, je me suis dit super. Et franchement, il joue bien son rôle.
C'est un classique de Nathan Fillion.
C'est génial, vraiment. Et je crois que...
Il joue un petit peu, pour ceux qui ont vu Dr. Horrible, il joue un petit peu l'équivalent sans pouvoir de Captain Hammer.
C'est vrai.
Et c'est très drôle. Il le fait très bien. D'ailleurs, on peut peut-être parler du casting. Enfin,
j'essaie de me souvenir parce que moi, je l'ai vu quand même il y a un petit moment maintenant.
Non, mais pas sans parler des guests, mais des
acteurs principaux. Non, mais pour voir si j'en avais d'autres à mentionner. Mais
il y a une guest, mais on va pas le dire, mais qui arrive sur la fin.
Oui, c'est vrai. Non,
qui vient d'Arrested Development. On va juste dire ça.
Oui.
Ça peut être plusieurs personnes.
Ça peut être plusieurs personnes. J'en ai une en tête.
On n'a pas dit.
Et pour revenir au casting, du coup. Je le trouve plutôt bien trouvé. Drew Barrymore,
très bien. C'est vraiment ça lui colle à la peau, ce genre.
On a l'impression que c'est un zombie dans la vraie vie. J'exagère. Mais...
Non, mais ça lui colle à la peau un peu ce côté un peu léger, parfois comique et parfois voilà. Ça marche bien pour elle. Je pense que enfin, je sais pas si elle est impliquée. Je crois qu'elle est impliquée au niveau du projet à un certain niveau, que ce soit en termes de producteur ou quoi. Mais bon, voilà, c'est bien trouvé. Ça marche bien pour elle. Moi, je la trouve plutôt pas mal dans ce rôle.
Oui, elle est très bien. Elle le fait très bien. Pareil, il fallait quelqu'un d'assez charismatique.
Ouais.
Elle rechigne pas sur les scènes qui sont un peu, on va dire, dégoûtantes. Il faut peut-être prévenir. C'est pas forcément pour les enfants.
Il y a du gore.
Si vous avez des enfants de moins de 12 ans, peut-être pas.
C'est pas conseillé, honnêtement. C'est... à regarder en connaissance.
Donc Drew Barrymore, très bien. Timothy Olyphant,
son mari, voilà.
Qui m'a un petit peu surpris dans ce rôle. On n'a pas l'habitude de le voir là-dedans. Quand c'est on vrai. Parle de Justified, de Deadwood,
voilà.
il avait déjà fait une tentative de comédie juste avant avec le truc avec les avocats, les deux frères, l'un qui était à la télé et l'autre qui est un vrai avocat.
Il était en guest star, non ?
Oui, mais pendant un petit moment, vers la fin de la première saison, qui est l'unique saison, il me semble. Il y était assez régulièrement et c'était un rôle purement comédie, même très poussé. Donc moi, enfin, c'était la première tentative déjà que j'avais vu de sa part à faire de la comédie dans cette série.
Oui. Moi, je suis pas fan de lui vraiment en comédie. Je le trouve très bien dans Deadwood, évidemment, oui. Justified aussi, voire peut-être même plus dans Justified où il a un rôle un petit peu plus. Dans Deadwood, c'est vraiment le shérif de base,
avec sa moustache,
très charismatique,
sa droiture,
mais droit quoi, voilà. Alors que dans Justified, il est un petit peu plus... il fait des choses un petit peu plus limites, etc.
Oui, voilà. Ouais. Bah, il est humain, quoi. C'est le flic humain.
Il est un petit peu plus
badass.
Humain, mais
ouais.
Voilà. Et là, pour le coup, dans une comédie, je l'ai trouvé bien, mais pas forcément... C'est pas forcément là que je le préférerais.
Enfin, du moins, la série tourne pas autour de lui, quoi, et heureusement. Il est très présent, hein, mais je trouve que ça se repose plus sur le personnage de Drew Barrymore et elle remplit mieux son rôle que...
La série dont tu parlais, c'est The Grinder.
Exactement, voilà. Ça j'avais regardé.
J'avais pas trop aimé, pour être honnête.
Ouais, c'était très inégal. Il y avait des épisodes sympas, mais sur la globalité, c'était pas exceptionnel.
Et par contre, pour revenir à Santa Clarita Diet, les enfants, je les trouve vraiment très bons.
Oui.
Et même une bonne surprise, parce qu'au début, on les trouve un petit peu, je les trouve un peu fades, un peu moyens, quoi. Et la fille
s'appelle,
l'actrice s'appelle
voisin.
Liv Hewson et son voisin aussi.
Ah, le fils des voisins, il est cool quoi.
Il a la tête pour, mais au-delà de ça, voilà. Je pensais juste qu'il avait la tête du geek
de
un peu extrême,
ouais,
d'ordinaire.
Peter Parker sans les pouvoirs. Quoi.
Mais au final, il est vraiment très bon et souvent les moments les plus drôles en termes de one-liner,
des
bonnes répliques,
viennent de lui,
vient de lui ou de la fille qui casse un petit peu ses parents parce qu'ils sont dans leur bulle, etc.
Des fois, c'est vrai que
c'est
drôle.
C'est vraiment bien.
On a souvent des situations où les rôles sont presque inversés, où des fois, c'est la fille qui est plus mature que les parents.
Tout à fait.
Gros classique, ça aussi.
Ouais. Mais bon, c'est dans ça a été bien géré dans cette série-là. C'était pas mal fait. Donc, ouais. Toi, t'en as pensé quoi, Dubaï,
donc moi, je n'ai vu que le pilote, mais honnêtement, j'ai été conquis quoi. C'est pas prise de tête. Ça dure le pilote dure 38 minutes très exactement.
Ouais,
je sais pas si tous les épisodes sont.
Après, c'est de la trentaine de
cette
minutes,
longueur.
Hein,
mais voilà, pour une série comique avec un petit peu de fantastique, d'horreur, tout ça, c'est très bien, c'est un très bon format. J'aime beaucoup Drew Barrymore, je suis super fan de Timothy Olyphant, depuis que je l'ai vu dans Deadwood et dans Justified. Je l'ai même...
Et pas dans Die Hard 4.
Et je ne l'ai pas détesté dans Die Hard
4. Moi, je l'ai détesté.
Je ne l'ai pas détesté.
Je dois l'avouer, j'ai détesté.
Pour être honnête, c'est plutôt le rôle qui n'était pas franchement...
Oui, non, certes, c'est le rôle. C'est pas son jeu d'acteur.
Je
ne
l'ai pas
aimé
dans Hitman.
J'ai détesté
par contre,
ce méchant.
Je ne l'ai pas aimé dans
j'ai
Hitman.
Je n'ai pas osé regarder.
mais bon.
Il n'a pas eu de chance au cinéma.
Ouais,
au cinéma, il n'a pas de chance, je trouve.
Non, moi, je me souviens de lui dans Girl Next Door. Avec la fille de Jack Bauer.
Alicia Cuthbert.
Alicia Cuthbert.
Très bon film.
Très bon film. Avec aussi Emile Hirsch
oui.
Avant qu'il
oui.
ait.
Mais sans rire, je le disais en rigolant, mais sans rire.
Ah,
c'est un
bon film.
Très sympathique.
Oui, c'est un très bon film. Mm. C'est le film d'adolescent par excellence.
Ouais,
mais voilà.
Tout à fait.
Sinon, c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose au cinéma, hein, forcé de constater. J'ai vu un film d'horreur avec lui qui s'appelle The Crazies, qui est vraiment pas foufou. Qui s'inspire beaucoup de 28 jours plus tard, mais en mode redneck américain. Bon, c'est plus que passable. Non, il brille surtout sur ses séries. Hein,
tout à
parce
fait.
Que Deadwood Deadwood et Justified sont vraiment deux putains de séries qu'il faut regarder, quoi, hein,
tout
simplement.
Tout à fait.
Donc voilà, mais oui, clairement, comme pour The OA, que j'ai continué, du coup.
C'est très bien.
Voilà, le pilote m'a convaincu, m'a hypé.
Il y a combien d'épisodes déjà? Je crois qu'il y en a une dizaine ou 10 ou 13.
10, je pense.
10.
8.
Et la longueur fait que...
Non, c'est un peu plus, je crois que c'est au moins la dizaine.
C'est la dizaine.
La dizaine.
Ouais, j'hésitais entre 10 et 13.
380 minutes, ça va, ça se fait en une nuit.
Ouais, voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment regardé, moi, tout je pense quasiment tout en une journée. Hein. Ouais. Je crois que c'était un week-end où j'étais malade. J'avais envie de rien, je me suis posé devant ça. Et honnêtement, ça m'a fait oublier mon état. J'ai passé un bon moment, j'ai regardé ça d'une traite.
Tu disais ça pourrait être pire, je pourrais être mort et un zombie.
Exactement, je pourrais être en train de vomir tout ce que je sais.
On va pas trop la dire, mais
on va pas en parler,
ouais.
Mais bon. J'aurais pu être malade.
Ça donne le ton, en tout cas, la scène donne le ton.
Voilà, rien que cette scène donne le ton de la série.
Je sens une saison 2.
On va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, de toute façon, c'était pas le but de faire une série avec une seule saison.
Oui, je pense qu'il y
en aura
d'autres.
Netflix a un bon taux de renouvellement.
Oui.
C'est rare. Même les séries qui en font un peu un beat d'audience, on ne sait pas vraiment parce que Netflix ne donne pas les audiences, on a quand même des idées. Et c'est souvent renouvelé pour une saison 2, puis annulé après la saison 2. Ouais. Et celle qui s'est fait annuler, c'était Marco Polo après sa saison 2, parce que derrière, il y avait un gros budget aussi. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que j'aimais beaucoup Marco Polo, mais bon.
Ça coûtait cher, oui.
Ça coûtait cher.
Tandis que là, ça devrait le faire.
Voilà,
là,
pense
les acteurs doivent coûter cher quand même, mais bon, ils sont pas très nombreux.
Oui. Tout dépend.
Je ne saurais pas te dire.
Barrymore, elle doit prendre un certain cachet quand même.
Ouais, je pense.
C'est normal.
En tout cas, voilà, à voir s'il y aura une saison 2. Moi,
à voir dans tous les cas, quoi.
J'espère, parce que j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe pour la suite, quoi.
Moi je suis confiant quand tu as une saison 2,
je suis confiant, enfin j'ai vraiment il le faut quoi.
Donc voilà, Santa Clarita Diet, recommandation du Forumcast.
Ouais,
voilà,
tout à fait.
On peut dire ça, on met le sceau, le label recommandé, voilà, Certified Forumcast.
Exactement.
Bon du coup on peut passer à une petite séance flashback.
Allez.
Qu'est-ce que vous en dites?
Un jingle.
Il nous faudrait un petit jingle. Alors, dans la séance...
On n'a pas encore les moyens. Il faudrait qu'on soit sponsorisé par Netflix, mais c'est pas gagné là.
Bref, du coup, cette histoire de jingle mise à part, de quelle série allons-nous parler dans notre séquence flashback?
Bon, on va rester sur du Timothy Olyphant.
Voilà. On en a parlé pendant qu'on abordait Santa Clarita Diet. On a donc prononcé les noms de deux séries, Deadwood et Justified.
C'est une spéciale Timothy Olyphant.
Me fais retaper par Alda, mais c'est pas grave.
Ah.
Qui est une grande fan de Timothy Olyphant. Ce qui me dérange un petit peu d'ailleurs.
Ah bon?
Non, non. Mais...
Donc voilà, Deadwood, une série en 3 saisons, si je ne m'abuse.
Une série en 2 saisons. Ou alors j'ai une grosse bêtise. 2 saisons.
Bref, pas beaucoup de saisons. Le fait est qu'elle a été arrêtée avant sa fin formelle.
Tragiquement.
Tragique, voilà, de façon assez tragique. Je crois qu'il y avait un film qui était prévu, mais qui
n'a
jamais...
Alors le film est d'actu... Enfin, on en parle depuis des années, depuis la fin. Oui. Sauf que récemment, en février, le président d'HBO a annoncé que c'était toujours d'actualité, qu'ils envisageaient vraiment de le faire et qu'ils avaient l'air de se bouger. Bon, de là à ce qu'ils le fassent, je retiens pas mon souffle, malheureusement, mais c'est toujours quelque chose d'envisager, ils ont toujours ça en tête, en version téléfilm, hein.
Ouais.
Mais je croise les doigts, je croise les doigts.
Et du coup, bon bah, croisons les doigts, touchons du bois. Au niveau du pitch Deadwood, donc c'est une série qui se passe au Far West, une série western, qui se déroule pendant la ruée vers l'or, en fait, qu'il y a eu dans les collines de Black Rock. Si je ne m'abuse, on y suit le personnage de Timothy Olyphant qui incarne le nouveau shérif de la ville de Deadwood. Et en fait, il va rapidement se frotter à l'un des personnages les plus importants de la ville, c'est le patron du saloon, qui lui est incarné par
Ian McShane. Voilà. Ian McShane qui va être dans American Gods.
Voilà, oui.
De Brian Fuller, etc., dont on parlera forcément.
On va forcément en parler. Et donc voilà, donc ce sont deux personnalités qui vont s'opposer, dans la mesure où le shérif incarné par Timothy Olyphant est un modèle de droiture, quelqu'un qui cherche l'ordre, qui veut imposer l'ordre dans une ville ruée vers l'or, quoi. Non, la ville est en train de se construire, en fait, concrètement.
Mais en déclin, peut-être, au niveau...
C'est déclin humain, en fait, ouais. Parce que ça, du coup, le fait qu'il y ait de l'or dans les collines, ça déclenche les plus bas instincts de l'être humain. Et le lieu où se rencontre toute la vermine de la ville, c'est dans le saloon donc de Ian McShane. Et donc voilà, c'est une série qui est très bien produite. Il y a une production value exceptionnelle.
Série HBO, voilà, avec un casting, un rallonge incroyable.
Oui.
Et surtout des dialogues de fou. Dialogues juste à voir en VO. S'accrochant un petit peu.
À regarder en VO.
Certes, parce que c'est des dialogues plus ou moins d'époque.
Disons que c'est compliqué, après avoir vu la série en VO, de ne pas prononcer le mot cocksucker à chaque phrase.
Suite à notamment Wu, qui est un personnage d'origine asiatique, qui ne connaît qu'un mot d'anglais, c'est cocksucker. Parce qu'il a entendu le personnage de Ian McShane, le dire
tout le temps.
C'est très vulgaire. Et c'est juste, on a tendance à, enfin, les gens qui connaissent pas Deadwood, c'est peut-être le cas de Metal Neo,
oui, tout à fait,
ont tendance à voir ça comme une série de Far West basique.
Ouais.
Pour le coup, c'est pas du tout une série de Far West au final. Enfin, si.
C'est juste le contexte dans lequel
c'est juste le contexte, mais voilà. Les personnages sont géniaux. Il y a Trixie qui est incarnée par, je sais plus son nom, mais c'est une superbe actrice aussi. Il y a l'actrice canadienne qui joue la compagne de.
Du shérif.
Du shérif.
Oui.
Je vais retrouver tout ça.
Moi, je me souviens de l'adjoint du shérif, Solstar.
Solstar.
Donc, bon, le nom de l'acteur, je me souviens plus trop.
Regardez.
Bref, un casting 5 étoiles, quoi. Principalement tiré de série, mais que du.
Il y a Brian Cox qui rejoint la série. Il y avait 3 saisons, hein, je m'excuse.
Il y avait bien 3 saisons. On voit des personnages aussi historiques. Par exemple, dans la première saison, on a Wild Billy Cock.
Et d'ailleurs, il y a Garrett Dillahunt qui joue. Bon, on va pas spoiler là pour le coup, mais Garrett Dillahunt, il a non seulement un rôle, mais il a même plusieurs rôles.
Il
revient plusieurs fois avec des rôles différents,
un petit peu
transformé.
C'est un truc qui m'avait choqué d'ailleurs.
C'est vrai que c'est un peu surprenant. Pourquoi pas prendre 2 acteurs différents? Mais ça passe super bien. Hein. Je l'aurais pas lu. Je sais pas si je l'aurais remarqué.
C'est pas faux. Donc voilà, oui, Deadwood, série. Je sais pas si elle est disponible
Elle est disponible en DVD, c'est un très bon achat.
On peut la trouver en DVD par contre.
Mais donc, série qui ne se termine pas. Est-ce que la façon dont elle se termine quand même est suffisante ou pas?
Ça suffit.
Tu as envie de voir la suite quand même. Tu as envie de savoir ce qui se passe après.
C'est pas une fin formelle.
Ouais. Mais je mettrai ma main à couper quand même que. Tôt ou tard, ils referont le téléfilm. C'est pas possible de se priver de ça. S'ils en parlent encore, c'est que quelque part, ils savent qu'il y a une demande. C'est un projet qui est intéressant et, mmh. et ils ont bien fait un film pour Sex and the City. Bon, c'est pas pareil, mais.
Même deux.
Bon,
même
pour,
deux.
Pour le coup, il y avait plus de succès que Deadwood à la fin, certes.
Il y avait sexe dans le titre, quoi.
Ouais. Oui, c'est pas faux. Puis il y avait Carrie Bradshaw. Comment elle s'appelle
Carrie Bradshaw.
Cette actrice, bref. À tête chevaline.
Décidément, les actrices
Sarah Jessica Parker, c'est ça, voilà.
On va recevoir des plaintes presque justifiées.
Hein. Encore une fois, hein, de la part d'Addy Boy.
Voilà, mes paroles et mes tweets n'engagent que moi.
Si vous avez des insultes ou des plaintes, vous nous les faites suivre et on les transmettra.
addyboy@forum.com.
Du coup,
la boîte va se faire spammer en très peu de temps.
Non, n'en parlons pas. La deuxième série dont on voulait parler, c'est donc Justified, avec toujours le faramineux Timothy Olyphant dans le rôle principal.
Et le plus que faramiteux, Walton Goggins.
Faramineux, pas faramiteux.
Faramineux. Il est un peu miteux, son personnage.
Oui. Et mais... Walton Goggins avec sa gueule taillée à la hache et à la serpe. Enfin, ce mec qui a une des tronches, une trogne unique dans le cinéma.
Qui joue dans Vice Principals.
Si possible, messieurs. Un mini-pitch.
Un mini-pitch de Justified. On y suit donc Timothy Olyphant, qui est un US Marshal qui s'appelle Raylan Givens et qui, suite à une espèce de bavure, déménage de Miami dans le comté de... c'est Rawlins.
Oui, quelque chose comme ça.
Il retourne dans la ville de son enfance.
Uh-huh. Une ville un petit peu de bouseux, de redneck.
Une ville de bouseux, de redneck bien profond, quoi, dans l'Amérique. Et en fait, il va se confronter à son passé, aux personnes qu'il a connues étant gamin, étant adolescent. Certaines ont bien tourné, d'autres ont très mal tourné. Et en fait, son némésis, sa némésis principale, ça va être le personnage de Walton Goggins. Donc,
son ancien ami.
Son ancien ami Boyd Crowder, qui est devenu un criminel local, trafiquant de drogue à l'occasion. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pour le pitch de départ.
Une série à la base policière, mais avec de vrais arcs. Et des arcs intéressants et travaillés. Elle a encore des dialogues plutôt pas mauvais.
Bien ciselés, quoi. Bien
et
ciselés,
des personnages aussi qui ressortent bien, qui exploitent cet aspect un petit peu redneck, voire beaucoup redneck, sans tomber vraiment dans les clichés, ou du moins en jouant vraiment un petit peu intelligemment. Ouais. Disons qu'il y a des rednecks, mais par exemple, Walton Goggins, c'est un Boyd Crowder, c'est un redneck bouseux, mais très intelligent.
Surjoué, mais très intelligent.
Très intelligent. Donc c'est un très bon criminel. C'est un petit peu le Moriarty de la région.
C'est une très très bonne comparaison, ce que j'allais dire. C'est le Moriarty de la campagne. Voilà. Et donc, Justified, 6 ou 7 saisons, je crois qu'il n'y en a que 6.
Je ne m'avance plus sur les nombres de saisons.
Au moins 5 déjà. Sur...
Il y a, au moins 6. Je dirais qu'il y en a au moins 6. Pour moi, c'est vraiment un indispensable, en fait.
Là encore, on pourrait croire que c'est juste une série policière, mais non.
Voilà, non, il y a une ambiance de fou. Le fait que ça se passe dans cette Amérique bien profonde, c'est pas quelque chose qui est très souvent abordé par les séries ou par le cinéma, même, sauf un petit peu de façon un peu plus confidentielle. Et puis c'est fun, il y a des dialogues... Il y a des dialogues ultra frappants, enfin des punchlines. Par exemple, à un moment, Raylan Givens, donc le personnage principal, menace un type. Il se bat, il le met par terre, il sort son flingue, il tire la culasse pour faire sortir une balle, il la jette sur le type au sol et lui dit « Je vous préviens, la prochaine partira beaucoup plus vite. » Ouais. C'est ce genre de one-liners qui sont juste géniales, quoi. Et ça, voilà, ça marque. Le truc, c'est que le personnage principal est cool, mais limite, Boyd Crowder, le méchant, est encore plus intéressant que le personnage de Raylan.
Parce qu'il a toute une dimension où à un moment, il se met à la religion. Il embrigade ceux qui sont moins intelligents. C'est paradoxal. Il dit qu'il voit Dieu, etc. En même temps, c'est un gars qui a qui est à la base, était à l'armée, capacités, il sait faire des bombes.
Voilà.
Donc les deux mêlés, c'est un personnage.
C'est un extrémiste.
C'est une sorte Jésus explosif, mais qui perd pas son intérêt personnel au final. Donc voilà, il est un peu flou. On sait pas trop sur quel pied danser avec lui. On sait pas.
Ouais.
Des fois
il va aider
Raylan.
Voilà. Des fois
et
non.
Des fois non. Mais il y a une vraie logique derrière. C'est pas juste gratuit.
Ce n'est pas le mal pour le mal.
Série terminée.
Série terminée.
Avec une vraie fin.
Avec une vraie fin cette fois-ci, okay. Tout à fait. Et donc voilà, pour moi, Certified Forumcast, paf, je mets le sceau, le label.
Pareil. Ok. Bon,
moi, je vais juste revenir sur les actrices dont je parlais tout à l'heure de Deadwood, parce que je m'en veux déjà de m'être trompé sur le nombre de saisons. C'est Molly Parker. Et il y a Kim Dickens, que j'aime beaucoup aussi, qui malheureusement là est dans Fear the Walking Dead, qui est un petit peu inégal, mais bon. Ouais. Encore une fois, il y a plein de monde. Il y a Powers Booth, qui a un rôle très important.
Oui, il joue. Qui lui déjà Powers Booth dans la série, je...
Il joue l'ennemi de Swearengen.
De Swearengen, c'est ça.
Au début, et puis après, il y a un autre ennemi qui est Gerald McCraney,
oui.
qu'on voit dans This Is Us en ce moment, etc. Donc, très gros casting avec des bons noms. Et d'ailleurs, il y a Alice Krige de VOA, la mère.
La mère de.
Elle me disait quelque chose, et là, je viens de comprendre.
Ah bah oui, c'était pour ça. Moi, je me souviens l'avoir vu dans le film Silent Hill de Christophe Gans, mais. Mais pas que. Bon,
voilà.
Il se fait tard. La nuit tombe sur Marseille et ses environs. Et je crois qu'il est temps de raccrocher les micros. Alors, nous vous remercions une fois de plus. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site de forum. N'hésitez pas non plus sur iTunes, à nous laisser des petites étoiles pour faciliter le recensement du podcast. Et puis on vous donne rendez-vous très prochainement. On n'a pas encore décidé des sujets que l'on allait aborder.
Mais il y a des choses à dire. Je pense,
oui, il y a de nouvelles séries.
Mais ce qui est bien avec la pop culture, c'est
qu'il y a toujours
quelque chose à dire.
Même si on parle de l'ancien, du nouveau, du apparaître, il y aura toujours quelque chose à dire.
Voilà.
Tout à fait.
Et comme le disait la tortue dans Kung Fu Panda, le passé est derrière, le futur est devant, mais aujourd'hui est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent.
Waouh, c'est profond.
C'est profond.
Vous ne voyez pas, mais j'ai une petite larme.
Voilà, on a tous une petite larme. Donc voilà, on vous remercie, on vous dit à très bientôt, chers auditeurs du Forumcast. Gros bisous à tous.
À bientôt.